بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Par la grâce d'Allah Rabbul Izzah, nous reprenons les programmes ce soir et nous avons l'honneur de commencer une nouvelle sourate qui s'appelle la Suratul Insan. J'ai parcouru l'ensemble du tafsir pour avoir un visuel et une approche globale de la sourate. Je peux vous dire que c'est un tafsir qui m'a beaucoup touché. La façon, parce que je vous dis, c'est rien de spécial, mais la façon dont la sourate est structurée, ça c'est Allah qui a fait ses sens. La parole d'Allah, elle est magnifique, elle est belle. Mais quand on voit le découpage, comment c'est structuré, c'est impossible que ça ne touche pas ton cœur. Je vous promets. Celui qui a un atome de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et qui prend le temps de lire, d'apprendre, d'écouter le tafsir de la Suratul Dahr, je vous promets que ça apporte quelque chose de magnifique et d'exceptionnel. D'autant plus que la Suratul Insan n'est pas une très grande sourate. C'est pas très grand. Ça veut dire qu'on peut avoir une vision d'ensemble assez rapide. Et comment c'est structuré ? Allah Rabbul Izzah rappelle à l'homme sa création. Notre Seigneur rappelle à l'homme que il est une créature qui est assez nouvelle. Son existence sur Terre n'a pas commencé depuis l'existence de l'univers. Donc on va voir le principe de Ad-Dahr, que l'univers existait déjà. La planète Terre existait déjà. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a créé la race humaine. Ensuite, Allah explique quel bienfait il accorde à l'être humain en termes de le fait de voir, d'entendre, c'est-à-dire la santé. Ensuite, notre Seigneur nous révèle qu'il a envoyé les prophètes avec les livres et qu'il a donné la possibilité à l'être humain de choisir entre deux chemins. Le chemin de la droiture et de l'obéissance ou le chemin de la désobéissance qui est le fait de suivre son nafs, ses envies, c'est-à-dire tourner le dos aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, la troisième partie de la sourate qui est beaucoup plus longue, on va dire juste, presque jusqu'à la fin de la sourate Al-Insan, Allah Rabbul Izzah explique quelle est la destinée dans l'au-delà pour ceux qui ont suivi le droit chemin et qu'est-ce qu'Allah a réservé à ceux qui ont suivi, qu'Allah nous protège, le mauvais chemin. C'est-à-dire que c'est tellement clair comme découpage, c'est vraiment, franchement, ça apporte quelque chose d'énorme parce que ça te permet de te recentrer, de t'identifier, parce qu'Allah parle sur tout l'insan. Insan, ça veut dire quoi? L'homme, d'accord? L'être humain, d'accord? Allah parle de nous, notre création, les choix que nous faisons et les choix et leurs conséquences. Le dénouement dans l'au-delà ou les conséquences dans l'au-delà. Ce qui permet à l'être humain de se recentrer, comme on a dit, et réaliser que j'ai déjà passé la première étape, j'ai été créé. J'ai déjà eu ce qu'Allah annonce de la deuxième partie de la sourate Al-Insan, As-sam'u wal-basar, la santé, je suis capable, mashallah, je suis un être humain qui est ouvert, qui comprend, qui analyse et qui est capable de faire des choix et de prendre des décisions. Et donc, je me dis que là, je suis dans cette phase-là où Allah nabtalihi, Allah m'éprouve. Et Allah regarde quels sont les choix que je vais faire et quelles sont les décisions que je vais prendre, quel chemin je vais choisir. Et je sais que en fonction du chemin que je vais choisir là où je vais avancer, il y aura le dénouement. soit le paradis, soit l'enfer. Donc vraiment, c'est une sourate qui nous permet de prendre les bonnes décisions et de revenir vers le droit chemin au cas où si on avait pris le mauvais chemin. Non. Voilà, c'est une présentation globale. Avant de commencer, nous citons juste un hadith qui est rapporté par Imam Muslim, de lequel il est stipulé que notre prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de lire cette sourate dans la salat de Fajr le jour du vendredi, Yom al-Jum'a. De la première rakat, wa salam lisait Alif Lam Mim Tanzilu et surat al-Sijda, et la deuxième rakat, Hal Ata al insan, la sourate al-Insan. Na'am. Et beaucoup de mérite à nos imams. Des fois, on oublie ça, on vient à la salat, on a un imam qui, mashallah, il s'est réveillé très tôt le matin, il s'est préparé pour faire la salat, être imam. Vous savez, être sur le sajjad, le musalla, et avoir, qu'on ait 5 personnes ou 500 personnes, c'est pareil. Ça ne change strictement rien. Quand l'imam, il est devant, il tourne le dos aux gens, il ne sait pas combien de personnes il y a. Et puis l'imam est sincère, c'est une qualité essentielle, il n'a pas à regarder, il ne va pas adapter sa lecture par rapport au nombre de personnes ou qui est là, qui n'est pas là. Donc moi j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour nos imams qui, mashallah, préparent leur lecture et font de longues rakats avec concentration, application, tout ça, mashallah, ils ont beaucoup de mérite. Donc ça c'était en rapport avec le fait que le prophète alayhi salat wa salam lisait cette sourate régulièrement, le jour du vendredi, na'am, dans la salat de Fajr. On n'a pas traduit encore. Hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de trop communiquer pour le fait qu'on reprenne les programmes. On va y aller doucement, un petit programme de 20 minutes d'échauffement et puis inshallah, on rentrera dans le vif du sujet. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? La traduction c'est difficile à capter, je vous dis. C'est vraiment le tafsir qui nous permet de comprendre. Si on se suffit de la traduction, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. On va commencer par Allama Sa'di rahimahullah, qui a très bien traduit, qui a très bien commenté ce premier verset. Yaqulu rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal cite au début de cette sourate la première étape de la création de l'être humain. Ensuite, l'étape intermédiaire et ce qui en découle. C'est-à-dire, je répète pas ce qu'on a dit en introduction. Oui. Et As-Sa'di dit que notre Seigneur Azza wa Jal rappelle annahu marra alayhi dahrun tawil. Que avant la création de l'être humain, il y a eu beaucoup de temps avant l'être humain. Il y a eu beaucoup de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, la création de l'être humain ne correspond pas au début de la création des cieux et de la terre. Non. Allah a créé les cieux et la terre. Ensuite, combien de temps après, Allah seul le sait. Combien de temps après, Allah seul le sait. Mais pour que l'être humain se rappelle que l'être humain c'est une race, une créature qui est plus ou moins récente et que l'univers, Allah l'avait déjà créé avant le premier homme. Et là, le Mufassir, rahimahullah, il dit que ça permet à l'être humain de méditer, de réfléchir et de réaliser que finalement nous ne sommes rien. Si je me pose la question, combien de siècles ou de millénaires il y a eu avant la création de l'être humain? Et qu'est-ce qui s'est passé avant la création de l'homme? Il y avait qui? Qui peuplait les cieux? Qui peuplait la terre? Ce sont des choses dont nous n'avons même pas connaissance. Donc c'est un appel vers l'humilité. Comprends que nous ne sommes pas grand-chose. Et le fait qu'Allah nous ait créés, ça veut dire qu'Allah nous a accordé une chance d'obtenir, de choisir le droit chemin et d'obtenir son Jannah. Le fait d'être créé, c'est déjà un bienfait. Et après, si on se base sur une analyse purement humaine, vous n'allez pas suivre ce discours. Impossible de suivre. Parce que quelqu'un veut dire, oui, mais si je n'avais pas été créé, je n'aurais pas été là pour réaliser que je n'ai pas eu ce bienfait. Vous comprenez? Le raisonnement humain a ses limites. Mais nous réalisons, nous savons que notre Seigneur quand il nous donne la vie, c'est un ni'ma, c'est un bienfait. Parce que du moment que tu es là, tu existes, c'est que tu es, you are in the game. Tu es là, tu es sur terre, et Allah va t'éprouver et te donne la possibilité de te rapprocher de lui, d'obtenir le Jannah. Maintenant, si tu es né, et en plus Allah t'a accordé la hidayah, la guidée, ça c'est quelque chose qui est magnifique. Donc, allez, on revient au tafsir. Oui, l'Allama dit également, donc ça c'est pour le passé. Avant notre création, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a strictement aucune information. Et même, réalise et réfléchis aux musulmans, à l'époque où tu es né, ce siècle, 1980, 90, l'an 2000, ainsi de suite, quand on est vivant, le nombre de choses qui se passent autour de nous, dans les quatre coins de la Terre, et au-delà de la planète Terre, dans l'univers, des mondes parallèles, dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, nous n'avons strictement aucune connaissance. Non, on va pas aller vers Neptune, Pluton et non, Pluton était déclassé, hein, et vers la planète Mars. Restons là même dans notre quartier, la Tanière ou peu importe où on habite. Qu'est-ce qui se passe dans telle maison? Qu'est-ce qui se passe dans tel quartier? Qui est en difficulté? Qui est malade? Qui est en bonne santé? On ne connaît rien. On ne sait. La seule chose qu'on sait, c'est ce qui nous concerne et qui concerne nos proches. C'est-à-dire que notre connaissance de l'univers, elle est ma'adoum, il n'y a pas de connaissance de l'univers. On ne connaît rien. Et au-dessus de nous, il y a un créateur qui a tout créé, qui a tout organisé et tout coordonné. Al-khalqu, on appelle ça al-khalqu wa tadbir. L'organisation de la vie de chaque créature est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Même là, le petit cafard qui est à côté de toi, non, il n'y a pas de cafard, c'est une plaisanterie. Tu as eu peur? Et le petit cafard, le petit fou ami, qui, c'est khalqun min khalqillah. Son rizq, cette petite fourmi, sa subsistance, elle est dans les mains d'Allah. Est-ce qu'il va manger une petite miette de pain ou peu importe? Je vous promets que si on commence à penser, à se pencher sur l'immensité de la création d'Allah, al-khalqu et at-tadbir, de l'organisation d'Allah, et quand on parle d'organisation, c'est la vie, la mort, les événements, la nourriture, le risque, ainsi de suite, on n'en finit plus. Je ne dis pas on perd la tête, non, ce serait une bonne action que de méditer sur la puissance d'Allah Azza wa Jal. Mais ce qui doit ramener, comme je donne un exemple parallèle, hein, vous regardez un documentaire sur les baleines, les cachalots, sur les oiseaux, les insectes, peu importe, d'accord, sur les réseaux sociaux, on voit parfois des oiseaux de couleur extraordinaire, on dit Allahu Akbar, Allah qui a créé tout ça, et ainsi de suite. Celui qui n'a pas iman, il va juste dire que la nature est merveilleuse. Il va parler de dame nature, pourquoi dame, pourquoi pas père nature, j'ai jamais compris, mais il va dire que c'est magnifique, la nature est bien organisée, ainsi de suite. Mais Ahlul Tawheed, ceux qui ont la ilaha illallah, ils arrivent à faire le lien avec la création d'Allah. Et cela renforce la foi. Ça s'appelle méditer sur la création d'Allah. C'est une grande action. Tout comme vous êtes à la plage, ou vous êtes en montagne, vous regardez la création d'Allah, la nature, et vous arrivez à vous imprégner de tout ça, et à réaliser que ça c'est la création d'Allah, et essayer de comprendre comment Allah est puissant. Donc, réaliser que nous n'avons strictement aucune connaissance et qu'au-dessus de nous, je répète, il y a le Créateur qui organise tout, fait preuve d'humilité et ressent la honte quand tu te mets en situation de désobéissance, quand tu décides, quand tu prends la décision, tu quittes chez toi le matin ou le soir, surtout le soir que les péchés sont un peu plus présents. Un jeune ou un moins jeune, hein, ça peut être même quelqu'un d'âgé, un samedi soir, il décide à 21h30 ou à 22h, je prends ma voiture et je vais à Saint-Gilles, je vais en boîte de nuit, je vais aller à un endroit où il y a du haram, parce que mes amis y vont, mes potos y vont et tout, donc voilà, je vais avec eux. Réalise que dans la balance de ton choix et des émotions, d'un côté tu as quoi? Tu recherches un plaisir, et de deux, tu recherches la satisfaction et la reconnaissance de tes amis. faut pas qu'il dise, oui, il est tout le temps, il est en retrait, il est coincé, il est... Chez nous, les jeunes, ils disent, ouais, lui, c'est un steak, lui, et tout, et tout, et tout. Donc, tu veux montrer que non, tu es avec eux. Tu as recherché le contentement des créatures. Et de l'autre côté, tu vas à l'encontre de ton créateur des créatures. Excusez-moi. Oui, tu recherches le contentement des créatures. Et de l'autre côté, tu es en train de désobéir à ton créateur. Ce choix est inacceptable. Quand tu prends conscience de l'immensité de la création d'ordre, tout ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, en amont, et que tu te mets à désobéir volontairement, ciment à ton Seigneur Azza wa Jal, c'est inacceptable. Et donc le fait de méditer sur la puissance d'Allah te permet de faire preuve d'humilité et de te rappeler où est ta place et comment tu dois obéir à ton Seigneur et surtout pas aller à l'encontre de ses ordres et franchir les limites du halal et du haram. Hada. Naam. Alors, j'allais continuer, mais comme on a parlé de ça, c'était pas prévu, il y a un hadith à ce propos, où je le retrouve. C'est Ibn Kathir, rahimahullah, qui cite un hadith qui était rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal, hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « وَمَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ إِلَّا بِبَابِهِ رَايَتَانِ » J'essaie de résumer le sens du hadith. Chaque personne qui quitte sa maison, quand quelqu'un quitte sa maison pour aller à un endroit, c'est toujours pour un but précis. Il dit que en sortant, c'est comme si qu'il y a deux étendards. Un étendard biyadi malik, un étendard qui est dans les mains d'un ange. Wa rayatan biyadi shaytan, et un étendard, on a compris, qui est dans la main de shaytan. فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ, si la personne, cette personne se croyant sort de sa maison pour un but noble, pour faire quelque chose qui plaît à Allah. Donnez-moi trois exemples. Ali. La salah. Autre exemple. Non, sortir de chez toi pour, par exemple, pour venir ici, pour apprendre la connaissance religieuse. Sortir de chez toi, Abdurrahman, un exemple. C'est ce que je voulais entendre. Et je voulais plutôt entendre aller rendre visite à ses parents. Est-ce que tes parents, tu vois tes parents, Jolie Abdurrahman, ce matin? Ah. Est-ce que tu as embrassé ta maman? Non. Avant de dormir, il faudrait le faire. D'accord? En général, on a plus de facilité à embrasser sa maman que son papa. Hein? C'est comme ça. Mais il faut le faire. Excusez-moi, sans se perdre les exemples. Je me rappelle à l'époque, il y a moins de 10 ans à peu près, Cheikh Halifi était venu à La Réunion, pour ceux qui s'en souviennent. Et il m'avait dit que, voilà, il habite à Riyad, la capitale. Et il me dit que le village de ses parents se trouve à 50 km de Riyad. Riyad, c'est gigantesque, c'est grand. 50 km. Il me dit que jamais il laisse un jour passer sans aller rendre visite à sa maman et embrasser sa maman. Il a du travail le matin, l'après-midi, mais quand c'est fini, c'est-à-dire il ne rentre jamais chez lui sans aller voir sa maman et l'embrasser, que ce soit le matin ou le soir, mais une fois par jour. 50 km, c'est quelque chose. Hein? C'est vrai que là-bas, enfin, les routes sont larges et c'est un grand pays, mais 50 km, c'est combien de temps il faut pour 50 km? 40 minutes. Hein? C'est comme 50 km, c'est comme Saint-Louis. D'accord, subhanallah, chaque jour. D'accord. Et deuxième anecdote, ça c'est par rapport à ce que j'ai dit, que voilà, il disait également que à une époque on lui avait proposé un poste à Madina Munawwara. Quel honneur de travailler à Madina, et il a refusé. Pourtant, ville du prophète, il a refusé. Pourquoi? Parce que s'il est allé à Madina, distance Madina Riyad, c'est à peu près, on a 700 km environ. 700 km, c'est beaucoup. C'est 1h15 en avion. Il m'a dit que s'il allait habiter à Madina, c'était le choix du cœur, la ville du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjid Nabawi, une salat vaut combien? 1000. C'est des choses énormes. Mais il ne peut plus voir sa maman. Tous les jours. et pour lui c'était pas possible. Il a fait le choix de rester à Riyad. On peut parler du tafsir, mais après il faut toujours revenir vers notre quotidien, ce qu'on peut encore faire. Vous savez, j'ai un ami qui a perdu son père, on sait de qui on parle récemment, et la première chose qu'il m'a dit quand je suis parti le voir pour Ta'aziya, il m'a dit: Moulana, fais kadarou de papa. C'est fait kadal, c'est une expression, donne de l'importance à ton père qui est toujours de ce monde, parce que moi j'ai plus de papa. C'est ceux qui ont perdu leurs parents qui réalisent que mes parents étaient là, et il faut pas qu'on vive sur les remords. C'est tellement dommage qu'on perd notre père, notre papa ou notre maman, et c'est là qu'on réalise tout ce, comment il comptait, tout ce qu'il nous apportait, et il te reste plus que des larmes, et tu vas sur le tombe et prier. C'est bien, tu vas sur le tombe prier et tout, mais c'est quand ils étaient vivants qu'il fallait faire le khidma, être proche d'eux et se faire aimer, et faire en sorte que quand ils quittent ce monde, ils sont satisfaits de toi. Parce que l'obéissance, parce que le contentement d'Allah se trouve dans le contentement des... Ça, c'est essentiel. Vous voyez, cette personne qui est... C'est un exemple, hein, je ne vise personne. Qui est régulier à ses salats, il lit le Coran tous les jours. Il jeûne lundi, jeudi, il donne l'aumône, il fait plein de bonnes choses. Mais il a tourné le dos à sa papa, à ses parents, son papa ou sa maman. Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Il peut avoir un signe de prosternation comme ça, être considéré comme étant un homme pieux, être vraiment engagé dans beaucoup de bonnes choses, mais s'il n'a pas respecté ses parents, khalas. Parce que dans le Coran, Allah Rabbul Izzah nous dit: wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. À chaque fois que notre Seigneur Azza wa Jalla cite le tawhid, juste après Allah parle du droit des parents, parce que c'est ça, c'est ce côté, il y a le côté spirituel et il y a le côté humain. Bon, allez, donc, je suis parti un peu loin là. Donc, quand une personne quitte sa maison pour une de ses bonnes actions, aller voir ses parents, aller rendre visite à un malade, ainsi de suite. Voilà, si c'est pour une de ses bonnes actions, je reprends le fil du hadith. L'ange le suit avec cet étendard. C'est-à-dire qu'il a la compagnie d'un ange parce qu'il est sur le droit chemin. فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ. Et il reste sous l'étendard de cet ange, hatta yarji'a ila bayti, jusqu'à ce qu'il retourne à sa maison. Et on comprend le contraire. Maintenant, si le but de sa sortie c'est lima yuskhitullah, si le but de sa sortie c'est quelque chose de mauvais qui provoque la colère d'Allah, c'est Shaytan qui vient avec lui. C'est le diable qui l'accompagne avec un étendard. Et ce shaitan reste avec lui jusqu'à ce qu'il rentre à sa maison. On va s'arrêter là. Ce hadith nous permet de bien comprendre. Ça, c'est le hadith, il est sahih, il est authentique. Comme on l'a dit, il est rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal. Ça nous permet de comprendre que nos choix sont essentiels. Faisons en sorte qu'à chaque fois qu'on quitte sa maison, et de façon plus globale, à chaque fois je prends une décision, à chaque fois je décide même de dire quelque chose, faisons en sorte qu'on analyse nos paroles, nos faits, nos gestes, nos intentions, pour que ce soit conforme aux ordres d'Allah. Recherchons en permanence le contentement d'Allah, et si on meurt de cet état où jamais tu te mets volontairement dans une situation de péché, tu meurs de cet état, alhamdoulilah, on peut espérer beaucoup de bonnes choses. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte Majlis, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, ces quelques éléments, et qu'Allah nous permet de prendre le droit chemin et nous garde sur le droit chemin jusqu'à la mort. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.